Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Est-ce que tu as déjà collaboré? Qu'est-ce que tu mets derrière le mot collaboration? Parce que non, une collaboration, ce n'est pas que promouvoir une marque commercialement et ce n'est pas non plus forcément en échange d'une rémunération. Ça peut être bien plus que ça. Au même titre que nous ne sommes pas des youtubeurs, nous ne sommes pas non plus des influenceurs. Nous sommes des yogipreneurs et notre job n'est pas de représenter d'autres marques, mais bien de faire connaître la nôtre, de collaborer au service de notre visibilité. Alors, comment s'y prendre? Est-il indispensable d'avoir une grosse audience pour avoir des collaborations sérieuses? Faut-il avoir peur de démarcher les marques? Comment les aborder? Comment te sentir légitime? Quelles sont toutes les opportunités de collaboration qui s'offrent à toi? Par où commencer? C'est le sujet que j'aborde aujourd'hui dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast avec mon invité de marque. J'ai le plaisir d'accueillir Mathilde, la fondatrice de la marque de tapis Yogom, pour explorer ce sujet. Mathilde va te livrer ses meilleurs conseils pour collaborer avec une marque et je suis sûre que tu auras mille idées qui s'offrent à toi après cette écoute. Mathilde nous dévoilera également les secrets de sa stratégie de contenu et comment elle a développé sa communauté en partant de zéro. Encore un épisode riche de tips et de pépites que je me réjouis de partager avec toi. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast et tout de suite, je laisse place à ma conversation avec Mathilde. Bienvenue Mathilde, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast.
Salut tout le monde.
Alors Mathilde, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter la marque Yogom, l'histoire de la marque Yogom?
Alors l'histoire de la marque Yogom, écoute, j'ai après une école de commerce et quelques années à travailler dans le secteur de l'événementiel, du marketing et de la communication. J'étais de moins en moins à l'aise en entreprise et j'avais beaucoup trop d'idées que j'avais envie de développer. Donc, l'entrepreneuriat commençait un petit peu à me démanger. Petit à petit, je me suis orientée vers le marketing digital. Donc, j'avais envie de créer une marque, mais ce n'était pas vraiment précis. Je n'avais pas spécialement d'idées. Et puis, je suis partie au Costa Rica en voyage un petit peu initiatique. Et j'ai fait du yoga complètement par hasard pour la première fois. Donc, c'était en 2015. Et au retour de ce voyage, j'ai décidé de lancer une marque de yoga. Et j'ai commencé tout simplement par développer des tapis de yoga, puisque c'est un petit peu la base pour pratiquer. Et c'est là que ce n'est que le début de l'aventure et qu'il va y avoir plein de choses qui sont arrivées ensuite et qui vont arriver bientôt. Donc, 2016, je commence les tapis. 2017, 2018, petit à petit, je suis un petit peu revenue en entreprise parce que j'avais pas suffisamment confiance en moi et en le projet. Donc, il y a eu une petite pause qui m'a permis de mieux réfléchir, de mieux cibler le projet. Et je suis revenue, en fait, à temps plein. Yogom, vraiment, c'est lancé en été 2018. Donc, ça fait 2 ans et demi. Et à partir de là, j'ai plus jamais arrêté. J'étais convaincue et le projet s'était affiné. Donc 2018-2019, j'ai développé. Maintenant, on a 5 gammes de tapis. J'ai développé les accessoires. Et est arrivé le Covid. J'ai accouché le 21 mars et je pensais que j'allais être tranquille. J'avais commandé toute ma marchandise pour être tranquille pendant 3 mois. Et en fait, le 21 mars, ça faisait 3 jours qu'on était confinés. Tout d'un coup, le samedi, les ventes se sont mises à exploser. Et avant, j'avais à peu près 3-4 commandes par jour, ce qui était déjà bien, j'en vivais déjà. Et là, on est passé à 40 commandes dans la journée. Donc, je recevais des notifications, mon téléphone sonne dès qu'il y a une commande. Donc, ça fait ding, 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 ding. J'étais dans la salle à la maternité. Je ne savais pas d'ailleurs, je ne comprenais pas trop où j'étais ni ce qui se passait. Je venais d'accoucher. Mais Ça a commencé à ce moment-là et depuis, même après le boom du Covid qui a fait exploser le marché du yoga puisque tout le monde s'est mis à faire du yoga à la maison.
Ouais.
Moi et mes concurrents, enfin tout le monde s'est retrouvé sans stock parce que tout le monde a eu besoin et envie de s'équiper. Mmh. Mais même après ce gros boom, en gros, ça a tellement propulsé le marché que mes ventes aujourd'hui, elles sont à... Donc là, on était à fois 10, maintenant on est quand même à fois 5, donc il y a vraiment eu, ça a vraiment été le déclenchement de la croissance de Yogom.
Ouais, un bel impact. Et en tout cas, c'est ce que j'adore dans ce que tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est le fait que au début, finalement, t'as voulu lancer ta marque, etc., t'as tâtonné finalement un petit peu, t'as fait un peu des allers-retours avant vraiment finalement d'affiner ton projet, d'affiner ce que tu voulais faire, d'affiner peut-être aussi ta cible, etc. On en reparlera, mais je trouve que c'est un message aussi d'espoir, comme quoi ça peut ne pas fonctionner du premier coup, ou on peut ne pas réussir du premier coup, ou avoir la bonne vision, entre guillemets, le bon produit, la bonne offre tout de suite. Mais si on croit en son produit et qu'on sait que c'est un indispensable ou en tout cas quelque chose dont les gens ont besoin et ont envie, en s'accrochant, on peut y revenir plus tard et ça peut fonctionner. Donc, c'est bien de se dire que faut pas vivre peut-être des débuts plus au ralenti ou plus difficiles comme un échec, mais au contraire s'en servir pour apprendre et aller... Et recommencer et aller plus loin et s'accrocher, quoi. C'est pas un overnight success, comme je dis souvent, en fait.
Non. Bon, moi, ça me semble même indispensable et inévitable. C'est-à-dire que c'est pas que le projet Yogom était pas clair, c'est que le projet Yogom, il s'est façonné le jour où j'ai mis les gens en face, en fait. Mm. Parce que j'ai pas, à part quand on est sur une innovation, mais sinon, j'avais ma vision, mon envie, mon idée. Mais le but, c'est quand même de la vendre. Donc, j'ai rencontré ma communauté. Et en fait, on est allé l'une vers l'autre. C'est-à-dire que moi, forcément, j'ai attiré des gens qui étaient attirés par le positionnement de la marque, les valeurs, les designs, les produits, la communication. Et moi, je me suis aussi inspirée de la communauté qui me challenge d'ailleurs tous les jours dans mon engagement éco-responsable. Mmh. Donc, il faut justement commencer au plus vite tant que c'est pas clair. Parce que c'est l'expérience qui va façonner le projet et le produit.
Exactement, passer à l'action et avancer. Et plus, enfin, au fil de l'eau, du coup, on va effectivement apprendre et progresser, quoi. Et alors, comme n'importe quel... Enfin, là, on en parle, donc on voit bien que tu es parti de zéro. Hein, ce n'était pas une reprise de marque ou autre. Et donc, je regardais un petit peu ton compte Instagram. Aujourd'hui, c'est quand même plus de 10K d'abonnés, du coup, entre autres, hein, sur Instagram. Après, je sais que tu as d'autres médias aussi. Mais du coup, ma grande question, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est du coup, comment tu as fait pour te faire connaître et entre autres, du coup, via les réseaux et sur Instagram particulièrement?
Eh ben, c'est comme le projet Yogom, hein, c'est-à-dire que ça s'est pas fait en 2 minutes 30. Et là, le message que j'ai envie de donner aux entrepreneurs, c'est je pense qu'il n'y a pas d'entrepreneur qui échoue, il n'y a que des entrepreneurs qui abandonnent, parce que tout est une question de patience finalement. Le jour où on échoue, à part d'être en liquidation judiciaire, c'est parce qu'on a décidé de faire le bilan et de se dire ça n'a pas marché, mais qui a décidé que c'était le jour de faire le bilan? Personne. Donc pour moi, il faut vraiment s'accrocher. Au début, je suis partie de zéro en 2016. En 2018, je suis arrivée à peu près à 2000 abonnés à force de poster tous les jours, mais j'étais dans une surconsommation, j'étais dans une obsession. Au début, c'était les débuts d'Instagram, il fallait avoir des followers. Je ne savais même pas ce que je faisais. Et en fait, j'ai acheté des programmes, des packs où on vous dit que ce sont des vraies personnes de votre cible, que vous pouvez acheter tout d'un coup. C'était les débuts d'Instagram, toutes ces arnaques, elles étaient méconnues, j'en ai acheté. Et en fait, je me suis rendu compte, 2 ans après, j'en avais acheté 500 hein, sur mes 2000, que ça avait été identifié par la suite par Instagram comme étant très nocif et que j'étais pénalisée et qu'en fait, je partais déjà avec, en m'étant tiré une balle dans le pied avec mon compte Instagram et ça m'a fait très, très mal. Mais je suis repartie de zéro, j'ai supprimé mon compte en octobre 2018, il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je suis repartie. Donc, ça fait 2 ans que les deux premières années, j'avais eu que 2000 abonnés. Et là, en 2 ans, j'ai atteint 10 000 parce que je suis repartie sur une base saine. J'ai décidé d'apporter un contenu plus qualitatif parce que moi-même, je suis très polluée par... j'y passe très peu de temps parce que je trouve qu'il y a trop d'informations sur YouTube, trop d'informations partout. Donc, on se doit maintenant chacun d'apporter... que l'information qu'on apporte au monde soit la plus qualitative possible par rapport à ce qu'on sait faire et notre mission. Donc, dès le début, je me suis dit, plutôt que de faire comme beaucoup de mes concurrents qui vont dire comment faire une posture, moi, je vais me positionner sur qu'est-ce que l'apporte cette posture en termes de bienfaits pour la santé. Ça a toujours été un peu mon créneau, c'est qu'est-ce que peut apporter le yoga dans la vie. Plutôt que juste, voilà, comment on va faire le grand écart, comment on va se mettre sur la tête, comment on va faire ci. Et puis, j'ai fait des concours avec des petites influenceuses qui étaient authentiques, pas des gens dont c'est le métier. Ça, je ne supporte pas. Même aujourd'hui encore, je refuse ce type de partenariat. C'est que pour moi, les ambassadeurs de la marque, c'est des gens qui aiment la marque et c'est des gens qui sont vraiment profs de yoga. Et en plus, ça permet d'avancer en même temps. C'est-à-dire que ces ambassadeurs, ils ont grandi et ils grandissent en même temps que la marque. Donc, ça permet de faire des partenariats vraiment intéressants. Et puis, j'en ai encore eu marre, j'ai encore eu un ras-le-bol. Et c'est là que, par rapport au contenu que je trouvais pas encore suffisamment différencié, j'étais pas allée suffisamment loin dans ma réflexion stratégique de qu'est-ce que j'apporte de différent à la communauté. Et c'est là, au deuxième confinement, que j'ai lancé l'académie, en fait, avec des cours en live, donc de pratiques, certes, ça n'a rien d'innovant, mais vendant des tapis de yoga, je me dois Donc, il y a des cours de pratique chaque semaine, mais là, j'essaie de me différencier en proposant des cours avec des thématiques sur un organe ou pour le dos ou pour le sommeil ou pour un problème de santé ou pour un problème dans la vie. Je vais vraiment essayer d'apporter quelque chose, même si on parle de cours pratiques. Et il y a le dimanche soir, c'est ça, et c'est ça ma mission. Moi, c'est vraiment d'essayer de dire au monde entier et aux gens qui découvrent le yoga que le yoga, c'est pas seulement la pratique physique, mais c'est plus un art de vivre et que du coup, la pratique physique n'est qu'un outil parmi tant d'autres que propose le yoga. Et donc, le dimanche soir, on aborde dans des cours la philosophie du yoga, les textes sacrés, les concepts, la non-violence, le karma, l'histoire et les fondements de chaque type de yoga. On se pose beaucoup de questions et c'est des choses qui sont formidables parce que c'est des concepts après qu'on peut retrouver en cours de yoga qui vont nourrir les pratiquants qui viennent de découvrir le yoga et qui vont aussi alimenter les profs de yoga qui vont pouvoir rafraîchir leur formation ou se servir de ces nouveaux enseignements pour aller les diffuser en cours.
Exactement. Et alors, moi, je suis hyper fan du coup là de ce que tu dis. Encore.
Et tout ça, ça fait grossir vite, quoi. Enfin, ça. Maintenant, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire, plus je suis nichée, plus je suis positionnée, plus je suis en phase. Et maintenant, ça, il y a au bout de quelques milliers de followers, c'est vrai qu'on en gagne beaucoup plus rapidement, quoi.
Ouais. En fait, j'aime bien effectivement ce que tu dis. Quand tu parles de niche, bon après, mon audience me connaît et sait que je vais forcément valider ça. Mais effectivement, à partir du moment où on sait à qui on s'adresse et du coup quel contenu va permettre d'éduquer et d'inspirer, du coup on est dans la création de contenu de qualité et forcément on a aussi derrière plus d'engagement. Et donc, ce qui fait qu'on vient faire grossir, du coup, notre audience qualifiée. C'est surtout ça qui est important, et tu l'as très bien souligné avec ta première mauvaise expérience, une audience qualifiée qui, derrière, va être fidèle et puis va aussi convertir, consommer nos produits. Donc, ça, c'est super intéressant. Et alors, du coup, j'ai regardé ton feed et j'ai vu que tu postais... finalement tous les jours quoi et donc j'aimerais bien que tu nous parles de ton organisation, comment tu es organisée en fait justement pour la création de ton contenu de manière à pouvoir publier régulièrement du contenu de qualité sans que ce soit chronophage pour toi.
Alors j'ai longtemps été pas organisée du tout. Et en même temps, non, au début, mon premier faux compte, je faisais ça de manière automatique. J'avais planificateur sur Facebook. Donc, c'est un peu le piège. C'est-à-dire que le planificateur de Facebook, il va vous pousser à faire ça de manière automatique. Donc, ça va peut-être perdre un peu en authenticité. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je me suis mis pendant 3 ans. J'ai fait ça à la mano tous les soirs. J'avais plus de vie. J'étais sur Instagram parce que forcément, aller choisir le bon visuel, qu'est-ce que j'ai à dire, partager en story, taguer, écrire, etc. C'est très chronophage et j'ai plus pu me permettre de faire ça. Et c'est tombé à un moment où, de toute façon, dans les autres domaines de mon job, j'ai dû me faire aider. Donc, j'ai des stagiaires qui sont arrivés en fin d'année, qui m'aident. Et du coup, ça a été l'occasion, en fait, de repartir sur un outil de programmation. Mais voilà, maintenant que j'ai eu cette première mauvaise expérience, on essaie d'utiliser l'automatisation et l'outil qui fait quand même gagner du temps, mais en ne négligeant pas la ligne éditoriale et le contenu et ce qu'on veut dire, quoi.
Ouais, donc c'est pas poster pour poster, c'est-à-dire qu'il y a une ligne éditoriale.
Non. Voilà.
Et ensuite, à partir de cette ligne éditoriale, on sait forcément qu'on va du coup apporter du contenu de qualité, mais du coup, on le programme et on l'automatise.
Voilà. Et à la base, il y a une ligne éditoriale, c'est-à-dire tout simplement, c'est un bien grand mot marketing pour dire que juste, voilà, je me pose un peu les questions, je réfléchis, je fais un planning, je pose des choses sur Excel et j'essaie de me dire sur un mois. Quels sont les événements qui arrivent, qu'est-ce que j'ai à dire, est-ce que j'ai un nouveau produit, est-ce qu'il y a un événement, est-ce qu'il se passe quelque chose dans le monde, est-ce que j'ai un produit à déstocker, est-ce que j'ai une nouvelle collaboration, est-ce que je vais parler de l'académie. Donc, il y a quand même une grosse réflexion de contenu qui peut et doit pas hésiter à être en plus bouleversée si justement il y a des choses qui sont plus intéressantes à dire. Même si on respecte plus trop le planning. Et puis après, il y a le merveilleux outil qui est Canva aujourd'hui, parce que c'est bien d'avoir le fond, c'est la base, mais si en plus on peut y ajouter la forme, c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que Canva, maintenant tout le monde s'en sert tous les jours, quoi, pour créer des visuels, pour créer des stories, pour créer des plannings, pour créer des tableaux, des animations, des vidéos, des gifs. Je crois que personne ne sait que... Ouais, voilà, je pense que tous les jours, on découvre des choses qu'on peut faire avec Canva. C'est merveilleux, quoi.
OK. Et du coup, est-ce que tu as une récurrence dans tes formats? Par exemple, tous les lundis, je poste ça. Est-ce que tu as une récurrence au niveau de tes formats, tes contenus, plutôt des concours, tel jour, telle semaine ou pas, des lives,
Ça s'est fait un petit peu, oui, ça commence à se dessiner. Donc maintenant, en fait, les lives, ils structurent tout. C'est-à-dire qu'on a le live, on va poster le programme du live le lundi. On va avoir un live le mercredi et le dimanche. Et puis le live, il va donner 8 autres pièces de contenu. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le live, on l'aura en replay en IGTV, puis on l'aura sur YouTube. Puis, pour le live du dimanche soir, on va avoir une version podcast et on va même rédiger un article de synthèse sur le live du dimanche soir. Donc, j'arrive à peu près à avoir 8 pièces de contenu pour un live qui vont toutes seules remplir en fait mon planning, puisque je vais aller mettre l'article podcast sur Facebook, puis je vais mettre sur Instagram en story le replay en YouTube et tout ça, ça va résonner, ça va faire des ricochets dans tous les sens et ça va permettre en fait à chaque pièce de contenu de rayonner, quoi. Tout ça à partir d'une
seule, à partir d'un live. Donc du coup, on est sur ce qu'on appelle effectivement le recyclage de contenu. J'en parle assez régulièrement et je suis contente du coup qu'on ait ton exemple concret. Donc d'ailleurs, j'invite mes yogipreneurs à aller voir justement comment le live sur le compte Yogom est ensuite effectivement démultiplié finalement sur les autres supports. Je crois qu'il y a un podcast aussi, c'est ça ?
Ouais.
Donc du coup, à voir comment c'est recyclé sur YouTube, sur le blog, sur le podcast. Bien évidemment, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Mais c'est vraiment un très très bon exemple effectivement de recyclage de contenu. Je veux rebondir aussi là-dessus parce que. Par rapport au live, donc moi je pense qu'effectivement aujourd'hui la création de contenu elle reste bien évidemment indispensable, mais effectivement elle suffit plus en fait, en tout cas au niveau des yogipreneurs, pour se faire connaître. Et justement, c'est pour ça que ça m'intéressait de creuser ce sujet avec toi, le sujet des collaborations pour booster sa visibilité. Parce qu'on voit bien du coup que toi, en tant que marque, c'est intéressant pour toi du coup de faire de collaborer avec des profs de yoga et en tout cas de faire travailler, d'inviter sur ton compte des profs de yoga. Parce que c'est justement ce live qui te permet de créer en fait ton contenu. Donc du coup, effectivement, on a un gros gain de temps. Et ça, c'est important pour moi de le souligner parce que des fois, les profs de yoga, ils n'osent pas aller justement vers des marques ou vers des partenaires pour rechercher la collaboration. Donc ça, déjà, c'est un point que je voulais mettre en avant. Et du coup, j'en profite aussi pour te demander ce que toi, là, on le voit déjà un petit peu, hein, ça se dessine, mais comment vraiment c'est organisé, en fait, tout ce que tu mets en place pour développer justement des collaborations, des partenariats et pour offrir de la visibilité aux profs de yoga.
Alors, évidemment, je vais les inviter à venir me contacter, mais le conseil va être plus général. Déjà, c'est n'hésitez pas à vous tourner pour commencer par des petites marques peut-être qui se lancent, mais pas que. Il y a même, vous pouvez très bien vous orienter vers des blogs, des blogueurs et même des profs. Je vois beaucoup, depuis qu'on a lancé les lives, de profs qui ont fait connaissance en fait et qui se sont mis en contact et qui font des lives ensemble pour faire du partage et des synergies de pratiques en fait. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et ensuite, le mot d'ordre, c'est donner, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir donner, c'est sûr, donner un cours en live ou pas forcément en live. Ça peut être une vidéo d'un cours que vous avez tourné chez vous. Un cours en audio, ça, c'est de plus en plus… ça se fait de plus en plus. C'est hyper intéressant de pouvoir proposer aux gens de suivre un cours chez eux sans avoir à regarder une vidéo juste par une guidance audio. Ça peut être un article, un PDF, un e-book, n'importe quoi, un concours. Mais c'est sûr qu'il va falloir donner. On est sur un partage et qui dit donner, vous allez recevoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus le voir comme moi, je donne un cours gratuit. Non, quand je vous dis que pour un live, moi, je vais avoir 8 pièces de support, finalement, vous allez en avoir tout autant. C'est-à-dire que la vidéo du live, vous pouvez la récupérer et vous en servir sur votre chaîne YouTube, la remettre sur votre compte Instagram ou un site internet ou l'envoyer à vos clients, à votre communauté ou à vos prospects. Les articles, tout support créé, les certes pour la marque à qui vous avez offert le cours, mais les aussi pour vous et devient également du contenu recyclé pour vous. Donc, c'est sans fin, en fait, l'histoire du contenu. Et puis, il y a certaines personnes, moi, j'invite tout le monde à monter dans le train de Yogom, hein, il n'y a aucune restriction. Tout le monde peut y participer. Aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération. Mais c'est vrai que les gens qui… Comment ?
Mais de la visibilité, justement. Voilà.
Les gens qui auront compris, en fait, cette logique de visibilité, de partenariat win-win au début, c'est avec eux que je vais avancer et donc on prend l'exemple de Yogom, mais c'est la même démarche que vous pouvez avoir avec d'autres marques. Mmh. Après, ça viendra de soi si vous faites ça vraiment dans une démarche qualitative. Après, ça peut être la marque peut vous proposer de faire un e-book. Moi, j'y pense, de faire intervenir des professeurs. Ça peut être, par exemple, moi, je vais commencer, ça m'aura permis en plus de benchmarker. Je vais commencer à proposer à des professeurs d'enregistrer des cours et de me les vendre pour que moi, je puisse, par exemple, les revendre. Il y a plein de choses. Il faut voir tellement plus loin. Tout ça qui part en fait d'un cours d'une heure de votre temps que vous offrez et qui fait quand même partie en plus, je tiens à le dire, du karma yoga. On est quand même censés tous essayer d'apporter un peu notre pierre à l'édifice et diffuser le yoga de manière solidaire. Donc, voilà.
Mais ouais, mais en plus, effectivement, c'est carrément de l'investissement après. C'est un investissement en temps, mais qui peut rapporter gros en termes de visibilité. Et d'ailleurs, je reviendrai sur cette question tout à l'heure. Par contre, tu as parlé aussi de concours. Et je vois des fois certains profs de yoga qui essayent de faire des concours sur leur compte. Et c'est vrai que c'est peut-être pas évident. Est-ce que tu aurais des clés à nous donner pour un concours réussi, pour organiser un concours pertinent ?
Alors, déjà, un concours, ça ne va pas suffire. C'est comme tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment viser la longue traîne. Donc, Moi, Yogom commence à être identifié comme organisateur de concours. On connaît les concours de Yogom. Pourquoi? Parce que déjà, on s'est rendu compte que c'était des vrais concours avec des vraies personnes qui gagnaient des vraies choses. Donc, il ne faut peut-être pas non plus attendre du premier concours que ce soit l'explosion. Après, mes trois conseils, ce serait vraiment déjà de, quand on fait un concours, le faire sur une semaine parce que ça permet de le faire tourner. C'est-à-dire qu'on va pouvoir buzzer déjà avant en forme de save the date. On va pouvoir commencer à dire « Ah, quelque chose se prépare ». Puis, on va pouvoir annoncer le lancement. Puis, on va pouvoir présenter la marque qui fait le concours ou le prof ou la collaboration. Puis, on va pouvoir faire un sondage. Avez-vous participé? Oui, non, j'y vais. Puis, on va pouvoir faire un compte à rebours. Il vous reste encore 3 jours pour participer. Enfin, on va pouvoir, en fait, sous plusieurs axes, le faire tourner et donc donner de la visibilité et l'opportunité au plus grand nombre de personnes possible de participer. Ensuite, mon conseil, c'est de le faire en collaboration, c'est-à-dire de pouvoir profiter de la communauté de au moins 2 comptes, voire 3, 4, 5. Ça, je le fais pas assez et j'ai envie de le faire parce que forcément, ça prend plus de temps. Mais c'est sûr que et plus on est petit, plus on devrait avoir tendance à faire ça parce que ça permet d'allier ses forces avec d'autres gens, voire d'autres profs. En fait, les profs devraient pas forcément chercher à l'extérieur de leur spécialisation pour faire des collaborations. Des profs entre eux pourraient faire des collaborations. Et j'en vois d'ailleurs tous les jours. Ensuite, engager. C'est-à-dire qu'il va falloir présenter le concours de manière à ce que... Il y en a tellement maintenant des concours que parfois on peut se dire « j'ai pas besoin de participer, je vais pas gagner » ou « oh, c'est nul, encore des cochonneries, j'en ai pas besoin ». En plus, on est dans une démarche aujourd'hui où on évite de surconsommer. Et c'est vrai que ça, je l'ai compris. Et parfois, et au début, je faisais, j'offre le tapis totem framboise. Après, des fois, je faisais, j'offre un tapis au choix. Donc, pour un prof, ça peut être j'offre un cours au choix ou j'offre une heure. Et puis, en fait, ce qui marche le mieux, c'est d'offrir de l'argent. Donc, c'est bête, mais ça marche mieux d'offrir un bon d'achat à 70 euros qu'un tapis à 70 euros. Alors que quand j'offrais le tapis, j'offrais le tapis du choix de la personne. Donc, au final, ça ne change rien. Le but, c'est que je fasse plaisir. Mais c'est le petit tips. C'est vrai que quand on affiche un prix, la valeur de ce qu'on offre, tout de suite, les gens se rendent compte de la valeur de ce qu'on leur a offert.
Oui, c'est hyper intéressant, du coup, parce qu'effectivement, on parle de valeur, quoi. Enfin, et tu as une idée de une valeur en dessous de laquelle ça serait moins impactant, du coup, tu as fait plusieurs tests, toi, en termes de bons d'achat, enfin, de...
Ça, je le fais, c'est sûr qu'à partir de... Quand je dis 100 euros, j'avais fait ça pour les 5 000 abonnés, je crois, l'été dernier. J'avais fait 100 euros. 100 euros, c'était 100 patates, quoi. C'était énorme, alors que quand j'offre un tapis, ça peut être 95 euros. Donc, on n'est pas à 5 euros près, mais c'est vrai que... Ouais, je pense... Mais ça dépend, il n'y a pas de valeur. Mais même des gens qui vendent un truc à 10 euros ou 20 euros, un sachet de thé, par exemple, c'est vrai que ça a plus de valeur quand on voit le prix sur le concours, la valeur de ce qu'on offre. Ça fait moins gratuit et c'est la vérité, on offre quelque chose qui a de la valeur, qui est vendu, donc c'est... mais il n'y a pas vraiment un prix à partir duquel ça va vraiment pousser à l'engagement, quoi.
Et du coup, toi, tu fais des concours parfois avec des profs de yoga, en collaboration avec des profs de yoga?
Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, c'est d'ailleurs toujours avec des profs de yoga. Maintenant, je commence à essayer de chercher des marques. En fait, on essaie toujours de viser une communauté plus grande que la sienne pour faire grandir sa propre communauté. Donc, au début, quand j'étais toute petite, c'était les profs de yoga qui me faisaient des profs de yoga avec des plus grosses communautés que la mienne, à qui je pouvais donner un tapis, qui pouvaient du coup me faire profiter de leur propre communauté. Donc, c'était avec eux. Maintenant, c'est plutôt des marques qui vont être au-dessus des 10K que j'ai. Maintenant, les profs, on fait des concours avec plein de profs qui ont quand même à partir de 2000 followers. Ouais. C'est vraiment pour donner un indicateur, parce que c'est vrai que quand on a 50, 100 ou 200 followers, il faut commencer déjà à établir son feed, sa communauté, à travailler un petit peu avant de...
Travailler sur les points qu'on a vus précédemment.
Il faut offrir, il faut donner un live, il faut d'abord offrir avant de pouvoir être au niveau On va d'abord travailler sur de la visibilité avant d'accéder au concours. Mais le concours, oui, je pense qu'à partir de... Mais au début, j'en faisais même avec des... même avec 200 abonnés, vous pouvez aller voir des petites marques.
Ouais, c'est ce que...
C'est un peu proportionnellement, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Alors après, je rajouterais juste un tout petit détail qui a toute son importance. En fait, il faut chercher des audiences communes, bien évidemment. Et ça, je vois aussi des fois des concours, en fait, qui sont avec des marques ou des partenaires où l'audience, elle n'est pas forcément bien ciblée dans le sens où, justement, l'idée, c'est d'avoir, quand on fait une collaboration, c'est d'avoir un partage d'audience. Donc, c'est de se dire que notre audience peut très bien être intéressée par les produits de la personne avec qui on fait la collaboration et vice-versa. Et c'est ça, en fait, qui va faire, effectivement, grossir le nombre d'abonnés. Et voilà, donc, c'est extrêmement important de bien viser, il y a d'autres prérequis, mais en tout cas, que l'audience soit similaire. Qu'il y ait.
Mais tu as raison, c'est plus similaire que de même volume. Je vais peut-être un peu induire en erreur parce que moi, par exemple, ça m'arrive de faire des partenariats avec des. Ben, en ce moment, par exemple, je cherche des gens qui ont des bien plus grosses communautés que la mienne pour grossir. Et je vois bien, ben, je me retrouve en fait dans la position du prof de yoga qui commence et qui voudrait cibler une marque. Je me retrouve à la position de viser plus gros que moi. Il suffit de trouver des idées. Et ce matin, je me disais, moi, j'aimerais bien faire un concours avec cette marque, sauf que cette marque, elle a 65 000 abonnés, moi, j'en ai 10 000. J'ai rien à lui apporter. Et non, parce que on a la même cible. Donc, les 10 000 que j'ai, ils ont quand même une grande valeur. Exactement. Donc, j'ai essayé de trouver des idées pour que ce soit un win-win pour la marque. Et par exemple, ça peut être une idée pour vous, en l'échange d'un concours, pour compenser en fait la différence d'abonnés que moi j'ai par rapport à cette marque, je lui ai proposé d'héberger un article invité sur mon blog, sur le blog de Yogom, qui parlerait de cette marque, de ses produits ou de ses services, et qui redirigerait, donc il y aurait un lien vers son site, ce qui est excellent pour le référencement naturel, Google adore. Et ça a de la valeur. Aujourd'hui, sur un site comme le mien, ça peut valoir entre 300 et 600 euros. Ça me coûte rien. Et donc, je me suis dit, j'ai qu'à proposer ça, comme ça, la personne va peut-être s'y retrouver. Et vous, vous avez à offrir. Vous êtes prof de yoga, vous avez des cours à offrir. Ça peut être une heure, ça peut être deux heures, ça peut être une vidéo.
Un programme en ligne, une vidéo.
Donc, il ne faut pas hésiter à demander. Maintenant, il faut quand même regarder où est le win-win. Et peut-être que vous pouvez vous permettre de demander à des marques d'organiser un concours avec vous, mais qu'il va falloir, vous, que vous ayez autre chose en plus à proposer pour que ce soit un échange fair-play, quoi.
Donc, voilà. Alors, ça, c'est hyper... j'adore là ce que tu dis aussi parce que c'est évidemment, on ne vient pas taper à la porte avec rien à proposer, quoi. Si on veut démarcher une marque pour une collab... c'est bien d'avoir un peu pris connaissance effectivement de l'ampleur de la marque, de ce qu'elle fait, de tous ses supports et justement d'avoir un petit peu creusé ce qu'on peut lui proposer, des fois une chose mais des fois d'aller un petit peu plus loin comme toi tu le disais quand l'audience est plus importante et pour vraiment qu'il y ait un intérêt et que ce soit win-win, il y a le concours mais il y a aussi l'article invité, donc c'est essayer de trouver le package qui va faire que la collaboration peut matcher en fait.
Et ça, la marque elle peut pas le deviner. Moi tous les jours je reçois des mails de profs qui me disent j'adore votre marque, j'aimerais bien faire la promo. Ça devient limite vexant presque parfois parce que je me dis moi je donne des tapis du matin au soir mais et je peux pas deviner cette personne, alors je vais aller sur son compte Instagram
qu'elle a à m'apporter en fait,
qu'est-ce qu'elle a à dire, c'est du, il faut que je fasse l'effort et même en faisant l'effort moi ça va être que des interprétations, donc ça peut venir que de la personne, c'est à vous de vous dire de donner plein d'idées quand vous contactez une marque, soyez très ouvert, réfléchissez avant et dites-vous moi je peux faire ci, je peux faire ça, je suis ouverte à tout, travaillons ensemble et ça va résonner avec une idée de la marque et là on va pouvoir commencer à entrer en communication. Mais juste il vaut mieux envoyer 3 demandes et le faire super bien plutôt que 60 de manière pop.
Ouais, juste coucou, j'aimerais bien bosser avec toi.
Coucou, je veux un tapis et je veux faire un concours. Bah ouais, bah ouais. Moi aussi, je veux le Père Noël, j'y crois tous les jours, mais...
J'en profite, hein, donc si vous voulez aussi être interviewé sur le podcast, envoyez-moi un mail et dites-moi de quoi vous voulez parler, ce que vous avez à offrir aux autres profs de yoga de la même façon, et je peux vous laisser la parole au micro du Yogi Biz Podcast. Hein,
c'est voilà. Vrai, dans les échanges commerciaux, moi, souvent, on tourne autour du pot et les gens disent « qu'est-ce que vous pouvez proposer ?» Mais moi, je sais pas, c'est à chacun de dire... Et du coup, maintenant, j'essaie vraiment de dire « voilà, moi, je peux proposer ça. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer ?» Mais essayer de deviner ce que les autres vont pouvoir proposer pour construire quelque chose, non, il faut toujours que ça vienne de soi, il faut donner.
Ouais. Pour interviewer Mathilde, moi aujourd'hui je me suis fait racketter, hein. Vous imaginez même pas tout ce que tout ce que j'ai dû lui donner. du coup, hyper intéressant, et je rebondis juste un tout petit peu sur l'article invité. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche et l'intérêt d'un article invité, est-ce que juste tu peux nous expliquer rapidement?
Bah pour vous, c'est pour les profs de yoga, c'est vraiment le meilleur moyen de faire des collabs. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je demandais, en fait, donc imaginons vous iriez voir n'importe quelle marque, vous pouvez lui proposer d'écrire un article, par exemple, sur le type de yoga auquel vous vous êtes formé, une présentation. Ça, c'est l'article de base qui est super intéressant pour une marque de yoga. Présentation du vinyasa, d'où ça vient, en quoi ça consiste, quels sont les fondateurs, comment ça se pratique, avec quel matériel. Éventuellement, en plus, dans cet article, vous pouvez glisser une ou deux vidéos de vous-même, donc ça vous crée encore plus de visibilité. Ou ça peut être, par exemple, un portrait sur votre formation de yoga ou sur votre spécialisation. Quelque chose, en fait, sur une thématique yoga qui va pouvoir intéresser des gens qui font du yoga. Et ça... C'est important, c'est très intéressant pour une marque sur deux points. La première, c'est le contenu de ce que vous allez dire, c'est-à-dire que vous apportez, grâce à vous, ils vont avoir des informations intéressantes à donner à leurs lecteurs. Mais il va y avoir aussi cette histoire de lien de référencement Google, où là, c'est vous qui, en plus, allez y gagner, puisque ce sera ça pointera vers vos réseaux. Je ne sais pas si c'est
histoire ça, de... ça renvoie en fait vers le l'auteur de l'article, voilà. Et vers du coup soit son site, soit un lead magnet.
La marque, elle est contente, elle a du contenu, c'est-à-dire que vous lui avez écrit un article, donc elle est super contente. Et vous êtes super content parce que vous avez un lien dans cet article qui pointe vers chez vous. Et je vais vous dire, ça a plus de valeur d'avoir un lien qui pointe vers chez vous que pour la marque d'avoir du contenu. Aujourd'hui, ce qu'on cherche pour être bien référencé, c'est les liens, et les liens sont extrêmement bien analysés ou identifiés par l'algorithme de Google.
Et l'avantage en plus, contrairement peut-être à un concours, par exemple sur un compte Instagram ou quoi, c'est que c'est comme c'est référencé, c'est entre guillemets à vie. Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours trouvable, pas seulement la semaine où il y a le concours, quoi. C'est du coup un article, il vit longtemps. Donc
c'est ce qu'on va appeler la longue traîne, et il faut miser sur ça aujourd'hui. Alors, les marques, moi, par exemple, je suis obligée de faire de la pub payante. Et les concours, c'est des événements ponctuels qui permettent de gagner de la visibilité rapide. Mais en fait, il faut faire les deux. C'est-à-dire qu'il faut faire des actions avec des effets rapides. Mais il faut toujours viser la longue traîne. Un article, c'est une publicité gratuite à vie.
Exactement.
Fantastique. J'invite même tous les profs de yoga à lancer leur blog dès demain et à écrire des milliards d'articles. Il n'y a pas plus puissant. Vous n'avez même pas besoin d'une marque, finalement.
C'est un contenu hebdomadaire référençable, effectivement. Et du coup, donc on a parlé des concours, on a parlé des articles invités, et on a bien évidemment donc tout à l'heure parlé des lives, hein, puisque c'est le contenu que tu utilises en tout cas pour du coup être omniprésente, je dirais, un peu partout après, avec le fait de recycler ce contenu. Alors du coup, si j'ai des profs de yoga qui veulent faire des lives sur Yogom, collaborer pour être visible, il suffit qu'ils s'inscrivent sur l'académie, c'est ça ? Comment ça marche ?
Ouais. Alors, il y a sur le site internet, dans le menu, il y a une section académie qui explique le planning, comment ça fonctionne, etc. Et il y a un lien tout simplement pour pouvoir s'inscrire avec un formulaire et bloquer une date dans un Doodle. Donc aujourd'hui, il n'y a même pas de recrutement à l'entrée. C'est ouvert à tous. Vous n'avez même pas besoin d'avoir un tapis yoga. C'est pour dire que là, ça devrait peut-être changer, ça, parce que je me dis quand même, j'exagère. Mais c'est pour vous dire que voilà, je ne suis vraiment pas dans une démarche que commerciale. Alors forcément, les gens qui ont un tapis yoga, ils vont peut-être avoir le droit de faire plus de live. Mais une personne qui n'a pas de tapis yoga, elle peut faire un live. Et je peux même faire une remise. Et c'est là qu'on est dans le donnant-donnant. Moi, je n'oblige pas le prof à acheter un tapis, mais je peux faire une remise pour qu'il puisse s'équiper s'il le souhaite.
Si en plus il le souhaite.
Et puis, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il ait un truc à dire, quoi. Voilà. Donc, ça peut être un focus sur une posture. Ça, c'est hyper intéressant. On va faire les handstands ou alors sur un organe, sur la digestion, sur les torsions, sur le sommeil, sur une maladie, n'importe quoi. Mais moi, j'adore ces thématiques qui ont du sens, quoi. C'est-à-dire qu'on va pratiquer, mais sinon on ferait du fitness, quoi. Mais le yoga, c'est bien essayer d'associer à la pratique physique une dimension plus spirituelle ou de développement personnel.
Ouais, ou en tout cas répondre à une problématique commune que peuvent avoir un groupe de gens et qu'on sait que le yoga va les aider. Donc tu citais par exemple le sommeil, mais tu citais aussi des exemples de maladies, donc par exemple l'endométriose, la scoliose, etc. Ça peut être justement, parce que bon, moi je travaille beaucoup sur ça, notamment avec mes élèves et mes coachés, mais c'est voilà, justement avoir quelque chose de spécifique à apporter au-delà de juste un cours de vinyasa santé.
Moi j'adore ça, parce que par exemple l'académie, le cours de philosophie du dimanche soir, il n'est pas né d'une demande. C'est moi qui me suis positionnée sur ça, donc il n'y a peut-être pas grand monde pour le moment, et il n'y aura peut-être pas grand monde ad vitam aeternam, sauf que les gens qui commentent la vidéo aujourd'hui, les gens qui ont assisté à ce live, c'est ultra méga qualifié. Ils sont hyper engagés, donc c'est hyper puissant, et il vaut peut-être mieux, quand on est sur des secteurs de niche, avoir 4 clients qui vont dépenser 4000 euros chacun que 100 clients qui vont dépenser 2 euros chacun et qui en plus seront beaucoup plus volatiles et qui ne seront pas fidèles parce que finalement le produit ne leur correspondra pas vraiment.
Je n'ai rien à ajouter, c'est parfait. Je pense que tu pourrais coacher les profs de yoga en marketing digital, Mathilde. donc on s'inscrit sur l'académie, on remplit le Doodle avec la date et on en profite pour s'équiper Yogom et avoir une petite réduction, une petite remise supplémentaire, pourquoi pas. Et du coup après voilà, tu fais un feedback et puis c'est parti quoi, il y a le live et voilà.
Après, voilà, on voit si ça a plu, si les gens ont beaucoup vu. Il y a plein de projets qui peuvent en découler, de concours, de e-books, de cours, de packs. C'est sans fin. Mais il faut commencer par venir monter dans le train Yogom et dire ce que vous avez à dire et qui vous êtes, quoi, et votre vision du yoga.
C'est génial. En tout cas, belle opportunité, effectivement. Donc, voilà, moi, j'en avais déjà... J'avais déjà abordé ce point-là, notamment, je crois, c'était pendant le dernier confinement. Donc, j'avais déjà parlé de yoga, mais de ce que tu faisais pour les profs de yoga, pour leur offrir de la visibilité. Donc, voilà, ça me fait encore plus plaisir aujourd'hui que ce soit toi qui puisse remettre ça en avant. Est-ce que, du coup, tu as eu d'ailleurs quel retour tu as eu par rapport à la visibilité apportée à certains profs ?
Alors, là, c'est déjà, je te remercie d'employer le mot visibilité. On l'a déjà assez répété, c'est qu'on n'est pas dans une recherche de canal de vente direct et à court terme. On est vraiment sur du long terme. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est des partenariats en bonne intelligence. Et c'est là que je vous conseille, je le rabâche, d'aller vers des marques que vous aimez vraiment et sans le faire pour l'argent de prime abord. Ça viendra après. Moi, qu'est-ce que j'ai eu comme retour ? Il y a beaucoup de gens, vu que j'ai donné sa chance à tout le monde, il y a beaucoup de gens qui m'ont remercié de leur avoir donné en fait ce coup de boost, l'audace, et pour qui c'était d'ailleurs, il y a beaucoup de profs pour qui c'était le premier live était sur Yogom, ils n'en avaient jamais fait avant. Ensuite, ça a créé beaucoup de rencontres de profs et de synergies parce qu'en fait, les profs, vu qu'ils étaient anxieux à l'idée de donner leur premier live, ben, ils regardaient tous les autres lives et donc ils ont découvert plein de profs et il y a eu beaucoup de solidarité entre eux. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont contactés. Et en plus de ça, qui du coup, de fil en aiguille, sont allés sur d'autres comptes. Donc, il y a yoga, mais vous pouvez aussi viser, je ne sais pas si vous connaissez le temple sur Instagram, le-temple, T-A-M-P-E-P-L-E. C'est plus de la méditation, mais je sais qu'il y a des profs qui ont donné des cours sur yoga qui ont pu ensuite, grâce à ça, ça vous donne en plus ce tremplin-là, aller donner un live sur une autre plateforme qui, en plus, aujourd'hui, a plus de participation que moi à ces lives, donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai même eu, j'ai une copine prof de yoga qui, à force de collaborer avec Yogom et d'avoir de la visibilité, a eu des participants à sa retraite de yoga il y a quelques mois. Il y a Vincent et Laura qui sont les profs qui interviennent sur les lives du dimanche soir qui ont été cités dans un article de Yoga Magazine la semaine dernière. Ça, c'est moi qui démarche les journalistes avec des communiqués de presse pour faire parler de Yogom. Donc, quand je fais parler de Yogom, forcément, je vais faire parler des profs qui ont travaillé avec Yogom. Donc, eux, ils ont eu des liens directs vers leur site et ils étaient... déjà, ça fait plaisir. Et en plus, une fois de plus, c'est très puissant pour le référencement. Ouais. J'ai fait les deux tapis collab qui viennent de sortir avec Marion. Pareil, c'est une prof ambassadrice de la première heure de Yogom qui n'a pas une énorme communauté, qui n'avait pas une énorme communauté sur Instagram comme moi dès le début, alors qu'elle fait plein de choses. Elle a sa propre formation, son propre studio et on n'a jamais fait les comptes d'apothicaire, on n'a jamais compté l'argent et souvent elle me rend service. Parfois, c'est moi et on s'apporte comme ça mutuellement de la visibilité. Donc, ça a donné lieu à une collaboration de design. J'ai une agence événementielle dans laquelle j'ai travaillé au début de ma carrière qui aujourd'hui me contacte pour avoir des coordonnées de profs pour donner des cours de méditation en séminaire d'entreprise, des cours de yoga. Parce que du coup, avec le Covid, ils n'ont plus pu faire leur séminaire en présentiel. Donc, ils ont cherché à créer des team building. Et en plus des team building, enfin des activités centré sur le bien-être. Donc, ça a donné lieu à pas mal de pistes business commerciales.
Du coup, tu vois, tu fais de la recommandation, quoi.
Ouais. Voilà. Et voilà, c'est déjà pas mal.
C'est déjà énorme.
Plein de choses auxquelles je n'ai pas pensé, mais voilà, c'est pas packagé, quoi. C'est pas Yogom peut faire ça. C'est vraiment au cas par cas, en bonne intelligence, en fonction de ce que les personnes peuvent apporter et ce que je peux leur apporter. Et où est le fit, en fait, dans notre rencontre.
Mais effectivement, après, quand tu dis, ouais, c'est pas Yogom, c'est bon, voilà, là, on voit la puissance, effectivement, de travailler avec une marque comme toi. Mais globalement, moi, le mot, enfin, ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, on peut pas rester tout seul dans son coin à créer du contenu. C'est indispensable, mais pas suffisant. Et voilà, il faut s'ouvrir et il faut collaborer et il faut oser aller vers les marques à partir du moment où on respecte bien tout ce qu'on s'est dit en termes d'authenticité, d'audience similaire, de démarche win-win, etc. Et voilà, et on voit la puissance que ça peut nous apporter en termes de visibilité. Donc voilà, quand on me pose la question « comment je peux faire pour développer ma visibilité sur Instagram ?» Eh ben voilà, là je pense qu'on a bien couvert le sujet aujourd'hui avec toi Mathilde. Donc, vraiment, un grand merci pour tous les tips que tu nous as donnés dans cette interview. Et du coup, est-ce qu'on doit savoir d'autres choses sur Yogom? Quels sont les projets? Est-ce que tu veux pour nous dire un petit mot, du coup, pour la fin?
Alors, deux choses. Je vais teaser un peu déjà sur un produit qui va sortir, qui sera le résultat de tout ce contenu recyclé. En plus, vous allez voir que je peux aller encore plus loin. J'ai une idée derrière la tête et je ne peux pas vous le dire, sinon mes féroces concurrents vont sauter dessus, mais ça sortira bientôt. Et je n'hésiterai pas à vous faire un clin d'œil pour que vous vous souveniez de la conversation d'aujourd'hui au sujet de la stratégie de contenu. Et puis, il y a aussi, je rêve de revenir à mon métier de base, l'événementiel, et de lancer au plus vite, quand le Covid sera terminé, des retraites. Et tous les profs qui seront montés dans le train, c'est pareil. Vous voyez, ça, c'est encore une autre idée de projet pour laquelle j'aurai besoin de profs un jour. Donc, voilà pour les projets de Yogom.
Ou quelque chose me dit qu'on se reparlera.
Voilà.
Et qu'on entendra de nouveau Mathilde sur Yogibiz. Allez, moi, j'ai une petite question pour terminer, Mathilde. J'ai la curiosité de savoir quel est le tapis yoga préféré des profs de yoga.
Alors, le tapis de yoga préféré des profs de yoga, c'est le tapis détesté des yogis pratiquants. D'ailleurs, en discutant avec toi, je pense que je vais peut-être renommer le produit. C'est la gamme Performance, le tapis Performance, que les profs adorent parce qu'il est justement pas en caoutchouc et qu'il est, il est lisse, super lisse et peau de pêche, super agréable de pratiquer là-dessus plutôt que sur des tapis collants au quotidien. Mais c'est lisse, donc il faut pas être affalé dans son chien tête en bas et penser, espérer que c'est le tapis qui va tout faire. Et il faut avoir un bon ancrage, ce qui est le cas des profs de yoga qui ont compris que l'énergie devait se mettre dans les doigts, dans les mains, dans les épaules et que c'est pas le tapis qui faisait le job. Je devrais pas dire ça puisque j'en ai
pas. C'est un tapis magique.
mais voilà, les profs adorent ce tapis qui est trop trop agréable au toucher et qui permet en plus de faire des flots beaucoup plus dynamiques, de passer un grand écart sans freiner, sans être freiné par le caoutchouc collant du tapis, quoi.
Je commence à comprendre ce que tu veux dire. Voilà. Bah écoute, en tout cas, Mathilde, je te remercie vraiment mille fois. Alors, il faut savoir que je voulais aussi faire un petit coucou et un petit merci à Laura Harley, qui du coup fait les lives de philo sur Yogom, entre autres, et qui nous a un petit peu indirectement présenté. Et du coup, pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Donc, je suis ravie. En fait, on a échangé du coup avec Mathilde cette semaine et pour vous proposer cette interview. Et du coup, voilà, ça a été un vrai plaisir pour moi, Mathilde, de t'accueillir sur Yogi Biz.
Pareil, merci beaucoup à toi et bisous Laura aussi. Merci beaucoup.
Vous voyez, même nous, hein, voilà, on a été mis en contact comme ça et comme quoi ça donne lieu à un épisode de podcast hyper, enfin plein de bonnes choses pour vous développer dès demain. Donc voilà, maintenant je dirais que c'est à vous de jouer, à vous de faire la liste, par exemple, des 10 collaborations qui pourraient être intéressantes pour vous et puis de vous pencher sur chacune pour savoir ce que vous pouvez en faire, ce que vous avez à proposer. Donc voilà, on va vous laisser avec ces petits devoirs et puis je mettrai toutes les notes toutes les références dans les notes de l'épisode pour contacter Yogom et pour contacter Mathilde pour participer à l'académie. Voilà, donc Yogi Biz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Mathilde, à très bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
J'espère que cet épisode t'a plu, que cet épisode va t'être utile et que tu as passé un bon moment avec nous. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous partager ton avis, ton feedback sur Apple Podcast avec une note 5 étoiles. Je serai ravie de te lire, de partager ton commentaire. Et comme tu le sais, cela m'aide à faire connaître le podcast. N'oublie pas également de t'abonner pour ne manquer aucun épisode tous les lundis matin. Et dernier appel pour t'inscrire sur la liste d'attente, créer et lancer un challenge de yoga qui convertit. Ce sont les dernières heures pour t'inscrire sur cette liste d'attente. La formation va voir le jour dans quelques jours maintenant. Et en t'inscrivant sur cette liste d'attente, tu bénéficieras d'un prix explosif auquel tu ne pourras pas manquer de t'offrir cette formation. Voilà, Yogi Biz Podcast, c'est donc cette fois-ci bien fini pour aujourd'hui. D'ici la semaine prochaine, porte-toi bien et j'ai hâte de te retrouver. À bientôt, bye bye.